Bonjour Gilles Savary.
Bonjour.
Vous avez, comme on dit, un CV qui en dit long. Hein. La quatrième de couverture de votre livre que je vais présenter tout de suite et sur lequel nous allons échanger, La ville inaccessible, et c'est sur une fabrique des Gilets jaunes aux éditions Le Bord de l'Eau. La quatrième de couverture donc, de votre livre vous présente comme économiste, diplômé d'aménagement du territoire et d'économie spatiale, et puis donne évoque quelques-uns de vos mandats, car vous avez été élu. Alors je les rappelle et les précise, député européen entre 1999 et 2009, autrement dit pendant deux mandats, je vais pas être, ça va pas être chronologique, mais on va dire, comme on dit, du haut vers le bas. Député français, élu sur la 9e circonscription de la Gironde de 2012 à 2017. Et puis, outre ces mandats nationaux et européens, vous avez été 12 ans conseiller régional d'Aquitaine, 9 ans conseiller général du canton-ville de Talence, conseiller général de la Gironde, entre 2004 et 2013. Vous avez même été vice-président du département de la Gironde. Et comme vous étiez précédemment à cela directeur de cabinet du président Philippe Madrelle, un directeur particulièrement efficace, certains vous appelaient d'ailleurs le patron bis du premier département de France en superficie. Bref, vous êtes considéré en plus comme un des experts français et européens en matière de politique publique des transports, parmi les plus affûtés et les plus écoutés. Donc dans votre parcours, ce qui est très intéressant et particulier, c'est que vous avez été à la fois observateur et acteur, les deux en même temps. Ça donne des produits, quand vous les écrivez, qui sont tout à fait passionnants. Et puis, je rappelle que jusqu'en octobre 2021, vous étiez délégué général, pardonnez-moi si je me trompe dans le titre, d'une des composantes actuelles de Renaissance, territoire au pluriel de progrès, présidé aujourd'hui par Olivier Dussopt. J'ai cru comprendre que c'était un ministre qui était assez occupé par les temps qui courent. Voilà. Alors, je voudrais qu'on rentre directement dans la présentation de votre livre par son sous-titre, hein, car c'est cela qui non seulement attire l'attention, attention renforcée par une magnifique 4L photographiée sur la couverture d'un jaune bouton d'or dont on se dit qu'elle a dû être achetée il n'y a pas longtemps à La Poste, car elle a dû perdre son logo célèbre de La Poste. Le titre, le sous-titre, c'est « Essai sur une fabrique des gilets jaunes ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire ici, Savary?
Oui, la fameuse 4L doit être très mal notée en matière de vignette critères. C'est-à-dire qu'elle est probablement interdite de rentrer en ville.
Ben, voilà. Ça nous fait rentrer aussi dans le sujet.
Et donc, on est au cœur du sujet. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que, d'abord, cet ouvrage a pris naissance dans mon esprit pendant mon mandat national, de député national, où j'habite dans un endroit vraiment en la charnière entre l'agglomération et le rural profond.
L'agglomération de Bordeaux.
Hein. L'agglomération de Bordeaux et le rural profond. Donc je sais ce que c'est qu'un périurbain, et j'ai vu se développer des congestions automobiles fulgurantes. En 2012, il y a une autoroute entre Bordeaux et Langon, la sous-préfecture, qui était fluide. En 2017, elle avait bouchon matin et soir. Elle était en plus payante, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pour aller travailler, payaient un bouchon tous les matins et le payent encore tous les matins. Et donc, du coup, j'ai beaucoup mieux compris ce qui s'est passé avec le phénomène des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont des situations sans solution pour un certain nombre de nos compatriotes en périphérie. Elles sont sans solution parce qu'ils ne peuvent plus revenir en ville, parce que la ville est devenue trop chère. Certains disent qu'ils ont qu'à revenir. Ils ont été habités à la campagne, c'est bien gentil, mais enfin bon. La ville est devenue trop chère. Les emplois sont souvent restés dans les métropoles. Et les lotissements résidentiels se sont développés dans les petites communes. On a une espèce de fragmentation fonctionnelle de l'espace, le résidentiel dans la périphérie rurale et l'ensemble des services et des emplois dans la grande ville. Tout ceci est lié à un phénomène qui a échappé aux politiques publiques, mais qui est très spectaculaire. Et vous, Jean Petot, qui êtes de Bordeaux et qui êtes à peu près de ma génération, l'avez vécu, c'est le formidable dynamisme des métropoles. C'est-à-dire que les 30 dernières années, le phénomène d'aménagement du territoire en France, c'est que c'est la fin de Paris et le désert français. On a aujourd'hui des métropoles qui deviennent attractives par elles-mêmes, et pas simplement pour leur RPI. On y vient habiter de Paris, on les visite le week-end, et ces métropoles ont connu et connaissent un dynamisme démographique, c'est-à-dire une augmentation de la population continue et considérable. Elles sont très attractives, Et elles ont essaimé dans l'arrière-pays plein de petits lotissements résidentiels. Elles sont des multiplicateurs de mobilité essentielle. Aller au travail, aller au CHU, aller chercher des services dans la ville qui ne sont pas présents dans la campagne. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que pour des raisons qui deviennent aujourd'hui totalement légitimes, en tout cas qui font consensus et qui ne faisaient pas consensus, la ville a tendance à se fermer de façon extrêmement rapide. La ville se ferme plus rapidement que l'on offre à ses périurbains de solutions alternatives. Alors, voilà la trame du livre.
Alors on va évidemment approfondir tout cela. Dans l'entame de votre livre, ça prolonge ce que vous venez de dire, hein, page 12, vous parlez de la contrepartie d'un miraculeux rééquilibrage Paris-Provence, hein, puisque vous avez expliqué que Paris et les Arts français, c'est Jean-François Gravier, 1947. On oublie souvent que c'est quand même un très vieux livre, hein, cité par des générations entières d'étudiants, comme si c'était un livre sorti la veille. Hein. Mais en fait, c'est un ouvrage ancien de ce géographe. Vous écrivez, page 12, « Les déséquilibres locaux et un vague sentiment de fracture ville-campagne exacerbé par l'apparition de congestion automobile incontrôlée, vous venez d'en parler, autour de nos agglomérations provinciales, ainsi qu'un désalignement croissant des attentes de mobilité des urbains et des ruraux. » Et ce phénomène fonctionne un peu comme un leitmotiv. Vous en parlez page 34, vous en parlez page 45. Je me souviens, et je pense que vous aussi, Gilles Savary, puisque vous avez dit qu'on est de la même génération, d'un feuilleton radiophonique de l'étonnant Jean-Yann, hein, qui sur France Inter, en décembre 77, intitulé « L'apocalypse est pour demain ». Alors, les conducteurs étaient rivés à leur volant, j'étais bloqué quasiment à vie, hein, dans cet enfer, et un dernier dissident menait l'enquête, il s'appelait Robin Crusoe, il découvrait à la fin le grand maître de cette dictature qui était le cerveau automobile, voilà, entre guillemets. Bon. Bah, vous êtes expert de politique de transport et vous avez évidemment la mémoire des situations antérieures. Les congestions automobiles incontrôlées en ville, vous n'avez pas le sentiment que ça a toujours existé ?
Si, mais elles étaient au centre-ville. D'accord. Et cet ouvrage ne traite pas spécifiquement de Bordeaux. Il traite d'un phénomène qui est aujourd'hui pratiquement universel dans toutes les grandes villes de province, qu'elles s'appellent métropole ou que ce soit de grosses agglomérations. Le filigrane, c'est Bordeaux, puisque c'est là où j'ai vécu. Oui, bien sûr, les congestions automobiles étaient colossales. Nous avons connu, vous et moi, la rue Sainte-Catherine avec des véhicules. Elle sentait le gasoil comme il n'était pas permis. Les piétons essayaient de se presser contre les façades parce qu'ils n'avaient pas d'espace. Il n'y avait pas de vélo, autant dire que c'était absolument impossible. Et puis tout ceci a été interrompu progressivement parce que, effectivement, les maires ont réagi en disant c'est pas possible de maintenir ce niveau de pollution, de bruit, d'encombrement dans les villes-centres. Et les villes-centres ont toutes réagi à ça. Et en particulier dans les années 80, un peu plus tardivement à Bordeaux, le retour du tramway.
Alors, ça vous en parlez.
En surface.
C'était Grenoble. Hein,
a refait la ville.
Et Strasbourg.
Hein, avec Nantes, Grenoble, Strasbourg, les pionniers. On s'est aperçu que ça refaisait la ville. C'est le choix qui a été fait par Alain Juppé contre sa majorité à Bordeaux. Bordeaux en est sorti transfiguré. Et pratiquement partout en France, au cours des années 80, 90, 2000, on a réduit l'emprise de l'automobile dans les villes-centres. On a développé des transports collectifs. On a développé ce qu'on appelle les mobilités actives, le vélo, y compris la trottinette plus récemment, la marche à pied. Et on s'est aperçu, alors que ce n'était pas du tout consensuel dans les années 80, souvenez-vous, Chaban disait « Jamais je ne remettrai
le
tramway que j'ai supprimé en 1958. Ouais. Jamais, il ne faudra pas me le demander, il faut que les commerces continuent à vivre, il faut qu'on puisse accéder à la voiture. » Ce n'était pas consensuel du tout. Dans les années 80, le tramway a changé la vie de nos villes. Leurs configurations sont devenues beaucoup plus agréables à vivre, beaucoup plus apaisées. Elles ont regagné de la population. Bordeaux était en dégringolade de population. Elles ont regagné de la population familiale. Elles ont étalé leurs terrasses. Elles sont devenues hyper conviviales, hyper agréables à vivre. Et aujourd'hui, dans une autre configuration, c'est qu'il y a un consensus pour continuer à fermer ces villes.
C'est ça. Alors, on va revenir là-dessus parce que...
Il y a un consensus et ce consensus... repose sur à la fois des exigences climatiques, mais aussi sur le fait qu'on a fait ce test dans les années 80, qu'effectivement, des villes apaisées eh bien, étaient des villes plus agréables à vivre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne peuvent plus y accéder ?
Alors, c'est un consensus qui est plutôt, on va dire, transpolitique, mais on voit qu'il n'est pas transclassiste. Ce n'est pas un consensus social, puisque ce que vous dites aussi, c'est qu'effectivement, on a vu à partir du 17 novembre 2019 jusque finalement en
2018,
pardon, jusqu'en juin 2019, hein, pratiquement au moment des européennes, où là ça s'arrête, on a vu ces actes hebdomadaires, hein, de l'arrivée en centre-ville de cette population. Vous dites, par rapport à ce qu'on a connu, des blocages de la France par des routiers, des grèves de cheminots, etc., etc. Là, c'est une population nouvelle qui bloque des endroits qui habituellement n'étaient pas bloqués, les ronds-points, hein, et qui se projettent toutes les semaines dans le centre-ville des métropoles, hein, en étant en quelque sorte dans une autre terre, dans un autre monde. Alors, votre livre est structuré en quatre grandes parties. Les quatre premiers chapitres, en deux grandes parties, excusez-moi, c'est pas écrit comme ça, mais ça revient à ça. Les quatre premiers chapitres correspondent à la première partie de l'ouvrage. Ce sont des constats, hein, sur l'état des transports, aussi bien routiers que ferroviaires. C'est extrêmement bien documenté. Et puis vient ensuite une seconde partie que l'on pourrait classer, vous me corrigerez peut-être, dans la rubrique des préconisations, et qui, quelque part, recouvre les quatre chapitres suivants. Vous qui avez eu, et peut-être encore, un pied dans la vie politique active, qui est un observateur expert et particulièrement affûté de ces questions-là aujourd'hui, par rapport au paysage politique actuel. Est-ce que vous voyez des politiques ou des mouvements, des partis qui seraient sensibilisés aux thèses que vous présentez, ou est-ce que ce consensus est tel que vous êtes un peu...
Pour être très franc, je pense que quand j'étais député de ma circonscription périurbaine,
oui,
j'appelais de mes voeux, de façon à être bien compris, des trains de banlieue.
Oui.
Parce qu'on a des TER qui se traînent, qui sont en retard, qui sont pas fiables, qui vous font rater votre correspondance. Je prenais moi-même beaucoup le TER, je le prends plus, je veux le dire. C'est devenu kafkaïen. Voilà. Et je dis ça avec beaucoup de révérence pour tous ceux qui s'occupent de faire rouler les trains, mais c'est pas possible, on a un service qui n'est pas fiable. Et donc j'appelais des trains de banlieue, c'est-à-dire que je me disais, il faut faire comme à Paris, quoi. À Bordeaux, maintenant, on commence à avoir une très grande profondeur métropolisée, des gens qui viennent travailler, y compris de Marmande, de Bergerac, il faut absolument qu'on soit très fiable à l'heure de pointe, le matin et le soir. C'est les trains de banlieue, c'est les RER de la région parisienne.
Voilà. C'est-à-dire du cadencé et nombreux.
Du très cadencé, du nombreux, et pour que ce soit des vrais RER, mais il n'en est pas question ici, c'est en site propre.
D'accord.
C'est le S-Bahn allemand, c'est le RER de la région parisienne qui est en phase terminale dans la zone dense de l'agglomération, à ses voies à lui, de façon à ne pas perturber les autres trafics, et surtout, comme il faut qu'il soit très ponctuel, puisque c'est des gens qui travaillent, à ne pas être perturbé par les autres trafics. Donc j'appelais de mes voeux des trains de banlieue et l'amélioration des transports collectifs. Aujourd'hui, je dois le dire, mais ça fait maintenant... un certain nombre d'années, hein, ça fait six ans, il s'est passé pas mal de choses, et pour répondre à votre question, oui, les élus locaux commencent à réfléchir à la question périurbaine. Oui. Les élus locaux sont en train de se dire on a raté deux choses, mais personne ne l'avait vu. En améliorant la qualité de vie en ville, on a fait monter le prix du logement de façon fulgurante, et on n'a pas vu que y avait des classes sociales de travailleurs en général, pas les ultra-pauvres, hein, qui sont partis à l'extérieur et qui aujourd'hui ont besoin de faire des allers-retours parce qu'ils n'ont pas emporté leur emploi avec eux. Et donc leur vie est difficile. La dégradation des conditions de transport, de circulation, plus le coût de l'énergie, fait que ces gens aujourd'hui ont des budgets de transport considérables et ne peuvent plus revenir en ville parce que le foncier leur interdit. Le prix du logement est trop cher. Donc il faut leur trouver une solution. Et on avait aussi négligé le fait qu'en réalité, en améliorant la qualité de l'air à Bordeaux ou à Paris ou ailleurs, en réalité, on n'était pas dans un jeu qui était... comment dirais-je, totalement bénéfique, on avait simplement déporté en périphérie les pollutions. On ne les a pas réduites, on les a déportées. Même le phénomène métropolitain a accéléré les déplacements périphérie-agglomération. Et donc, il faut répondre à cette affaire. Et la thèse de ce bouquin, c'est qu'aujourd'hui, après que l'on ait privilégié, depuis les années 80, le maillage, le développement, sur lequel il faut sans cesse, évidemment, revenir, des transports collectifs en centre urbain, pas simplement ville-centre et pas simplement centre-ville, mais en centre urbain, il faut s'attaquer aux périphéries, et il faut proposer à ces populations ce qu'on appelle un choc d'offres. Il faut qu'il soit plus facile pour elles de venir avec des transports collectifs que de venir avec leur voiture. Sinon, on crée un séparatisme territorial extrêmement dangereux. Moi, je suis républicain. Je suis pas de ceux qui disent chacun doit vivre chez soi. Pas de ceux qui disent bon, la ville peut être interdite aux ruraux et bon, le monde rural sera interdite à la ville. On voit bien d'ailleurs les tensions sur la chasse. Il y a des urbains qui disent écoutez, moi, je veux me promener dans la forêt sans avoir des chasseurs le dimanche. Eh ben, l'inverse est vrai. Quand on est rural, on a le droit de venir dans la grande ville. La grande ville a d'ailleurs des services qui ne sont pas transférables en milieu rural. L'université n'ira jamais dans tous les villages, le CHU, pas dans tous les villages. Donc nous avons le devoir absolu de développer les transports collectifs. Et oui, ça commence tout juste à frémir. Les présidents de région, les métropoles commencent à regarder comment traiter le sujet. Et vous l'avez vu, pour le moment, elles n'envisagent de le traiter que par le rail. Mais c'est les fameux dossiers des RER métropolitains,
qui n'ont de RER que l'appellation
marketing, marketing politique, mais que la SNCF, très honnêtement, appelle plutôt des services express métropolitains.
Alors, je vous lis encore, hein, c'est page 27. Pourquoi je dis ça? C'est parce que page 27, ça fait référence à deux reprises à un cahier central que votre éditeur a bien voulu publier, qui est très bien fait, richement illustré, avec des cartes qui sont passionnantes en couleur. Et page 27, vous renvoyez d'ailleurs à deux pages de ce cahier central. Je vous dis, hein, ce qui alimente le malentendu sur les conséquences territoriales de la métropolisation, c'est qu'elle se double d'un phénomène de spécialisation fonctionnelle de l'espace entre l'urbain, qui concentre l'essentiel des activités, des services et des emplois, et le périurbain, qui en constitue essentiellement l'extension résidentielle et le réservoir de manœuvre. C'est ce que vous venez d'expliquer. Et là, vous avez une formule, je crois qu'il faut l'expliquer. La métropolisation est fondamentalement un commensalisme territorial plutôt qu'un parasitisme. Alors, c'est une phrase qu'on pourrait croire extraite d'un rapport d'un techno entre guillemets incompréhensible, et on ne comprend pas d'autres termes. En fait, expliquez-nous qu'est-ce que c'est.
C'est-à-dire qu'on a tendance à, quand on aborde ce problème, à avoir des approches extrêmement manichéennes. La métropole contre le rural. Les riches dans la métropole, les pauvres en périphérie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La métropolisation a permis de redévelopper des villages qui étaient et de faire échec à des villages ruraux, y compris assez lointains, qui étaient en perte de vitesse totale. On y a fait des écoles neuves, on y a fait des services essentiels pour les populations. Dans la plupart des petits villages ruraux de la vaste Gironde, aujourd'hui, il y a une renaissance démographique alors qu'on était en train de chuter depuis la guerre. Donc, le dynamisme de la métropole repeuple le monde rural. C'est incontestable. Elle ne le redéveloppe pas pour autant, parce que c'est plutôt du peuplement résidentiel et c'est pas du peuplement d'entreprise. C'est bien là le problème. Et c'est là où on a un problème de mobilité à régler. Mais en tout état de cause, ça n'est pas la métropole qui pompe son arrière-pays, comme on le dit trop souvent. Voilà. Et donc, ça n'est pas un parasitisme, c'est un commensalisme. Métropole et rurale vivent, ce sont deux organes différents. Il y en a un qui est plein de services, l'autre qui est plein de résidences, et vivent l'un de l'autre. Et le ruissellement est en général assuré par le département, d'ailleurs, par le conseil général département, qui, grâce à sa fiscalité, qui est essentiellement nourrie par la richesse de la métropole,
en particulier les droits de mutation,
et en particulier les droits de mutation qui sont liés au prix du logement, eh bien, a permis de refaire toutes les écoles en milieu rural. C'est pas les petites communes qui ont fait les écoles en général. Ils ont des équipements, d'ailleurs, les équipements scolaires primaires du milieu rural aujourd'hui sont d'une qualité en moyenne supérieure aux écoles de la ville. Supérieure, c'est tout neuf, c'est remarquable. Il y a de l'espace, les mairies sont refaites, il y a une salle polyvalente et il commence à y avoir une vie culturelle. Et parce que la métropole, la métropole est produit d'une fiscalité qui, via le Conseil général et les subventions que le Conseil général donne à ces territoires, ruisselle en réalité. Donc oui, ça se nourrit l'un l'autre, mais néanmoins, ça se nourrit de façon spécialisée. Le village d'antan complet où il y avait tout n'existe plus. Je suis né dans un de ces petits villages. Il y avait plusieurs quincailliers, plusieurs bouchers.
C'était dans le Limousin.
Il y avait plusieurs quincailliers, plusieurs bouchers. On pouvait avoir ses vêtements. Il y avait des dentistes, il y avait des vétérinaires, il y avait tout. Un petit village. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce petit village est un village dortoir. Voilà. Et donc, à la fois la métropole, en métropolisant, et c'est ça le phénomène de métropolisation, disperse de la population sur l'ensemble du territoire et fait renaître démographiquement les villages, mais sur des fonctions spécialisées, c'est elle qui a l'activité, c'est elle qui a les services, et ce sont les villages qui ont la fonction résidentielle, d'où des mobilités qui deviennent envahissantes.
Alors, sur l'ampleur de la tâche, hein, sur l'ampleur du problème, comme vous êtes quelqu'un qui a toujours eu une parole, on va dire, libre, hein, et j'allais dire détachée d'un certain nombre, parfois, de politiques, entre guillemets, nourries aux politiquement correctes, vous vous inscrivez, ou alors, j'ai pas bien compris, à l'inverse d'une grande majorité de commentateurs ou d'observateurs, en réserve par rapport à ce qui est maintenant considéré comme le nec plus ultra de la démocratie, sont les conventions citoyennes, hein, comme, et en particulier sur la convention citoyenne sur le climat, donc par rapport à des journalistes, à des ONG, à des militants écologistes, vous dites que ces conventions, qui sont d'ailleurs constituées de partis rage au sort de personnes qui se déclaraient intéressées sur tel ou tel sujet, hein, ne semblent pas réaliser, je vous cite, hein, l'ampleur des efforts à accomplir pour offrir des alternatives pratiques aux populations les plus captives de l'automobile. Alors là, on rejoint une dimension autour du consensus. C'est un consensus peut-être au niveau des élites, en tous les cas celles qui ont la possibilité à la fois d'être en ville, voire de prendre des décisions, mais finalement, le sort de ceux qui habitent à l'extérieur dans le périurbain et qui n'ont que comme l'automobile pour venir en ville, c'est pas une préoccupation principale.
Bah, je n'ai rien contre la démocratie participative. Nous sommes tous à la recherche aujourd'hui de la crise, enfin d'une solution à la crise démocratique, c'est-à-dire au fait que la démocratie représentative est de plus en plus suspectée. On va de moins en moins voter, le civisme s'effondre. Donc, que l'on consulte les citoyens est une chose, mais la contrepartie en politique de l'élection, c'est la responsabilité. Hein ? C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on prenne pour argent comptant ce que préconisent des conventions citoyennes, mais si ça se passe mal, c'est pas les citoyens des conventions citoyennes qui vont devoir payer l'addition, maintenir l'ordre, prendre des décisions déchirantes. Hein ? Sur les idées jaunes, c'est typiquement l'illustration. La Convention citoyenne pour le climat, elle a demandé des choses très claires. Hein. Elle a diabolisé la voiture. La voiture, c'est pas beau du tout. Hein. Si on pouvait taxer, surtaxer, il faut y aller. Et deuxièmement, elle a dit il faut pas rentrer en ville, surtout les vieilles guimbardes de diesel.
Ça, c'est les fameuses zones à émission.
Voilà, les zones de faible émission. Mmh. Et pour continuer, elle a dit supprimons les avions. Par exemple, Bordeaux-Paris. Bon, il y en a quoi, on a des trains hyper chers, on est captif des trains et de leur grève. Hein. Deuxièmement, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, même avec les primes aujourd'hui qui sont données par le gouvernement, ils n'ont pas les moyens d'ajouter le surplus pour acheter une voiture. Ceux-là vont être interdits de rentrer en ville. Interdits. Voilà. Et pour certains, c'est vital. Il y a des femmes de ménage, qui ont des vieilles guimbardes, qui ne peuvent pas prendre les transports collectifs parce qu'elles vont d'une maison à une autre, à laquelle on dit, ben non, écoute, tu es une damnée de la terre. Voilà, c'est pas fait par toi, pour toi, la modernité. Donc, ce que je pense, c'est que à la fois, on est pertinent à se poser ces questions, à prendre des mesures sévères en matière climatique, mais il faut oublier personne en République. Il faut oublier personne. Et donc, moi, je pense que l'on ne peut imposer une restriction que si on est capable de lui opposer une alternative, une solution pour que les gens puissent vivre en République, qu'on ne soit pas dans cette espèce de séparatisme social ou territorial. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai ces quelques mots sur les conventions citoyennes. Très bien, les conventions citoyennes, mais c'est aux élus de faire les arbitrages et de choisir in fine. Et je crois qu'il faut aussi se méfier du politiquement correct qui envahit nos écrans tous les soirs et qui finissent par ostraciser telle ou telle partie de la population sans lui apporter de solution.
Alors, dans votre ouvrage, il y a toute une partie qui est consacrée au fer, au chemin de fer. C'est absolument, alors là, pour le coup, comme tout le reste, mais là c'est passionnant parce que on sent que c'est un secteur que vous connaissez particulièrement bien. Je rappelle qu'en tant que parlementaire européen, vous avez sillonné l'Europe, hein, des 27 à l'heure, hein, et vous avez vu les différents modèles. Et puis vous connaissez très bien, on va dire, cette entreprise fleuron de notre patrimoine industriel et commercial, la SNCF, à partir de sa nationalisation au moment du Front populaire. Vous évoquez donc le rêve d'un chemin de fer universellement présente sur les territoires. Vous dites qu'il est encore vivant dans l'imaginaire politique et syndical, mais qu'il a fait long feu, je reprends vos propos. Et vous rappelez que selon un historien des chemins de fer, Étienne Auffran, en 1920, les trois quarts du pays, pour les trois quarts du pays, tout point du territoire dans ces trois quarts du pays se trouvait à moins de 10 km d'une gare, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc c'était bien une réalité. Quand est-ce qu'il a disparu, à votre avis, le rêve ferroviaire?
C'est une réalité qui a très peu duré.
Ah oui.
Oui, on a développé ça dans les années... Le chemin de fer n'est pas né du transport de voyageurs.
Non, oui, tout à fait.
Il est né du transport de marchandises. En Grande-Bretagne, ouais. Pays le plus avancé au plan industriel.
Parce qu'on a compris qu'on pouvait, voilà. Sur des rails, voilà. Avec une largeur de roue très, très, très faible, transporter des charges...
Des tonnes.
Phénoménales.
Ouais. Phénoménales, voilà. Mmh. Et donc, quand est-ce qu'il est devenu chemin de fer voyageur? C'est à partir du moment où les populations qui étaient très très largement immobiles, on vivait dans son village,
on se mariait à l'échelle du canton.
Voilà, si vous voulez, ça sortait depuis des siècles, et donc la mobilité a commencé à s'organiser par l'arrivée de l'usine, et qui concentrait l'emploi. Avant, c'était des petits emplois épars, tout était artisanal. L'arrivée de l'usine, donc on a commencé à essayer de régler ça dans les villes, et c'est les villes les premières qui ont fait du transport urbain avec des tramways à cheval, des modes de transport collectif qui étaient tractés à l'époque par les chevaux. Bon. Et puis progressivement, on s'est dit que la concentration urbaine, l'industrie faisant venir les paysans progressivement dans les villes, on a commencé à avoir des besoins de déplacement pour venir voir la famille, pour aller d'une ville à l'autre. Et puis les congés payés, alors là, ça a été extraordinaire. Et donc, la guerre 14-18, qui transporte les soldats au front.
Tout à fait.
Donc là, le chemin de fer commence à devenir un outil de transport de voyageurs de masse. Et puis, les congés payés. Et entre-temps, on avait développé des petites lignes mixtes. Il y avait deux wagons... de voyageurs, et puis il y avait trois wagons de marchandises.
D'accord.
On a couvert le territoire, et à peine l'a-t-on fait dans les années 20 que l'automobile est devenue triomphale. Elle était beaucoup plus souple, elle allait de façon beaucoup plus capillaire, moins de contraintes de circulation. Et donc, ce que je décris là, c'est-à-dire ce formidable réseau, n'a vécu que très peu de temps. Très vite, les lignes se sont interrompues et vous avez encore aujourd'hui des vestiges de petites gares qui n'ont vécu que 3-4 ans à cette époque. Ouais. Et on s'est replié sur les grandes villes avec des grandes dessertes urbaines.
Alors, ça crée quand même, vous dites, un patrimoine et dans l'imaginaire, vous dites politique et syndical, qui est quand même très, très particulier. Ce qui est absolument intéressant, c'est ce que vous appelez l'esprit cheminot. Cet esprit cheminot, vous dites que ça développer une culture de l'arsenal dans cette entreprise. Alors, je voudrais que vous expliquiez ce que ça veut dire.
C'est-à-dire que c'est une entreprise... Le chemin de fer, nos superbes gares, l'essentiel de notre réseau a été développé par le privé, historiquement. Par le privé. Financement privé. Ils ont fait faillite à l'arrivée de l'automobile. Nationalisation 37, d'abord parce qu'il y avait la plupart des compagnies qui étaient en faillite, et comme elles assuraient quand même des services réguliers, il fallait que quelqu'un les sauve. Donc l'État les a sauvés, ça a été la création de la SNCF. Depuis, c'est devenu quelque chose de mythique, la SNCF. C'est devenu, je dirais, presque un État dans l'État.
Oui.
Et c'est devenu très emblématique. C'est-à-dire qu'il y a une très forte charge symbolique, la guerre, le parti des fusillés, les gueules noires, Jean Gabin, enfin bon. Et puis les dessertes des territoires les plus reculés quand même. Et donc il y a une espèce de mythologie des chemins de fer. Les chemins de fer, comment dirais-je? Ah oui, il y a une nostalgie ferroviaire. Cette nostalgie est portée par les cheminots, plus souvent. Quand ils arrêtent de travailler, ils font un comité de réouverture de la ligne sur laquelle ils ont travaillé il y a quelques années. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention, parce qu'on a un réseau très étendu, mais on ne pourra pas, on ne peut pas réouvrir toutes les lignes. C'est un mode de transport lourd, hyper coûteux. Les Français ne s'imaginent pas, ils trouvent que le chemin de fer est très cher. Vous voyez, mais les TER d'Aquitaine, tout le monde trouve qu'ils sont chers. Ils ne paient que 25% de ce qu'ils coûtent. Ça s'entretient.
Les rames qui sont maintenant de la compétence de la région.
Non, mais ce qui s'entretient, c'est les rames et les rails. Mmh. Il faut éviter les aplats. Enfin, c'est quelque chose qui demande beaucoup de sécurité. Et donc, on ne paie que 25% de ce que ça coûte, rien que pour les TER. Donc, c'est extrêmement faible, la contribution. Donc, on ne peut pas mettre des chemins de fer partout s'il n'y a pas de population qui suffisante pour être desservie. À ce moment-là, c'est un gouffre financier et on ne peut pas le soutenir. Je sais bien qu'en France, on considère que l'argent est magique. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'on cible les investissements. Et moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui, et d'ailleurs, on le fait. On ne le dit pas. On dit oui à tout le monde, on va tout faire en même temps. Mais on échoue toujours à tout faire en même temps. On en est au quatrième plan fret depuis l'an 2000. L'an 2000, c'était Jean-Claude Guessot. On avait 50 millions de tonnes.
Ministre communiste.
Ministre communiste. On avait 50 millions de tonnes de trafic de fret par an. Il disait, c'est un scandale. Je mets des milliards sur la table pour qu'en 2010, on soit à 100 millions de tonnes. On a fait quatre plans successifs depuis. On est à 34 millions de tonnes. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, parce qu'à un moment donné, enfin, je veux dire, on n'a pas l'infrastructure suffisante, parce qu'on a dispersé les investissements, on a ouvert des petites lignes ici ou là qui n'ont pas de clientèle, et on a oublié de focaliser les investissements sur là où il le faudrait. Si on veut faire du fret entre l'Espagne et la France, ben, un jour ou l'autre, il faudra qu'on fasse un contournement ferroviaire de Bordeaux. On ne passe pas avec des matières dangereuses en permanence à Saint-Jean. Ça veut dire qu'il faut focaliser les investissements, et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que l'essentiel des investissements, c'est sur la voie classique, c'est sur le réseau historique.
On va revenir à ce débat qui est très prégnant, on va dire, en particulier dans le sud-est de la France. Mais je reste sur l'entreprise SNCF. Quand vous dites culture de l'arsenal, moi j'y ai aussi entendu et compris, par exemple chez les cheminots, la culture des ouvriers d'État, qui étaient quelque part à des moments, à des endroits stratégiques, les poudreries, etc. Et ça, les arsenaux, avec, pour le coup, à la fois une dimension très patriotique, mais aussi, on va dire, un souci de préserver le modèle qui avait été parfois durement conquis et acquis. Cet attachement, est-ce que vous, qui avez sillonné l'Europe en train, est-ce que vous l'avez trouvé, par exemple, la Deutsche Bahn, c'est ça ?
La Deutsche Bahn, c'est identique à la France,
d'accord.
Sauf qu'elle est beaucoup plus efficace que la SNCF.
Pour quelle raison ?
Parce que peut-être qu'elle est moins politisée que la SNCF. La SNCF a une vieille tradition, CGT, Parti communiste. Oui. Et quand la SNCF fait grève, c'est souvent par solidarité ou parce qu'elle a, il y a au niveau des centrales syndicales, des projets politiques qui ne sont pas simplement des projets ferroviaires.
Encore aujourd'hui ?
Ah oui, si vous prenez le patron de la CGT, il a le buste de Lénine sur son bureau.
La CGT cheminot, vous
cheminot,
dites.
Cheminot,
d'accord.
Cheminot. Donc, ce qui n'a rien à voir avec les chemins de fer, sur les Lénines.
Oui.
Non, ce que je voulais dire par culture d'arsenal, c'est un, c'est très corporatisé, c'est-à-dire que bon, on regarde pas trop à l'extérieur. Et deux, on ne compte pas. Il manque toujours de l'argent. C'est toujours la faute à l'argent. Or, aujourd'hui, on est dans des investissements ferroviaires qui sont insuffisants sur le réseau. Mais on est aussi dans une efficacité et une productivité de notre réseau très faible par rapport aux autres réseaux, ce qui nous coûte très cher, parce que si le réseau produisait à des coûts inférieurs, comme en Allemagne, nonobstant les statuts également de cheminots, comme en Allemagne ou partout ailleurs, on pourrait développer plus de lignes. Vous voyez ce que je veux dire ? On est contraint par le fait qu'on a aussi un manque d'efficacité productive. Et ça, je pense que c'est universel, mais c'est une maison qui ne veut pas bouger sur cette affaire-là. Donc ça sollicite de plus en plus les finances publiques.
Oui, et en particulier les collectivités territoriales.
Voilà, l'État a tendance à décider de priorités lourdes et à les faire payer par les collectivités territoriales. Et un de mes grands reproches, c'est que je considère qu'il faut aujourd'hui mettre de l'ordre dans la décentralisation ferroviaire. Autrement, les collectivités territoriales vont engloutir leur budget dans le tout rail. Alors qu'on a des tas de solutions, y compris routières, alternatives, et puis que le rail ne peut pas fonctionner tout seul. On a beau faire des trains très efficaces, s'il n'y a pas des rabattements, s'il n'y a pas des parkings, s'il n'y a pas des aires de covoiturage, si on ne peut pas traiter le problème du vélo en même temps que le chemin de fer, ces trains-là ne seront pas fréquentés et on restera avec sa voiture. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'engager, nonobstant la mode, dans une option du tout rail où la voiture serait péjorative, la route serait péjorative et le rail serait effectivement un puits sans fond. Je pense qu'il faut serrer les responsabilités. Je suis de ceux qui en appellent à une loi de réforme, une loi de décentralisation ferroviaire pour qu'on dise très clairement le TGV ne doit pas être payé par, par les contribuables locaux. Ça n'est pas un service local, c'est un service national qui doit être payé par tous les contribuables nationaux, mais pas par un impôt spécifique local. L'impôt spécifique local, s'il doit exister, un impôt affecté au chemin de fer, c'est pour développer les transports de proximité qui sont tellement défaillants autour de nos villes.
Alors sur le TGV, là aussi, on aura l'occasion d'y revenir, mais vous dites bien, comment se fait-il que, par exemple, les Franciliens sont exonérés de la taxe locale sur la LGV Paris-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Dax, comme s'ils ne prenaient pas le TGV pour venir dans le sud-ouest, mais eux, on ne les fait pas payer.
Hein, ouais, je trouve que c'est une approche assez péjorative. Le TGV, ouais, c'est un outil du centralisme. Oui. Il a été développé comme on a développé le train à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire en étoile à partir de Paris. D'ailleurs, quand on vous le vend, et quand ces messieurs de Paris viennent pour vous demander des subventions, ils disent aux élus locaux, des communautés de communes, on vous demande une petite subvention parce que ça rapprochera votre population de Paris. Voilà. Vous avez tous vu les cartes là des isochrones. Elles sont centrées autour de Paris.
Qu'est-ce que c'est les isochrones? C'est la déformation.
C'est la déformation
de l'hexagone. Voilà. Français en fonction du temps.
C'est-à-dire on fait une carte par le temps et non pas par la distance. On s'aperçoit que Bordeaux est évidemment à 2 heures et quelques et tout près presque en proche banlieue parisienne.
Plus proche de la deuxième.
Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces cartes d'isochrones, on les fait par rapport à Paris. On les fait pas par rapport à Clermont-Ferrand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien un train qui a une vocation nationale, voire internationale. Voire international, un train qui est fréquenté par des gens qui ont un certain niveau de vie quand même si ça n'est pas totalement élitaire. Faire payer un impôt sur des gens qui habitent dans la Haute-Lande girondine, qui n'ont pas de bus qui marche bien, qui n'ont pas de TER tout près, et auxquels on dit « vous ne rentrerez pas en ville parce que votre voiture pollue », je trouve que c'est... insoutenable.
Oui, mais là où ça se complique,
je trouve que c'est insoutenable, et donc je dis voilà, il faut très clairement que les TGV soient de compétence nationale, comme les grandes lignes, et que les régions s'occupent essentiellement des dessertes locales, dont les fameux RER métropolitains.
Alors justement,
qui viennent d'arriver.
Je rebondis sur les RER métropolitains parce que vous dites en même temps mettez en cause ce qu'on appelle le fameux millefeuille territorial, hein, c'est-à-dire, et vous connaissez bien cette organisation par couche, hein, au niveau des collectivités territoriales, régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale, intercommunalité donc, et communes, plus les syndicats très très nombreux qui tournent autour de tout ça, vous dites que c'est un réel handicap pour les transports périphériques. Vous citez justement ce fameux exemple des RER métropolitains, entre guillemets, et à propos du cas bordelais, je vous lis, il suffit pas de diamétraliser une ligne à part, de part et d'autre, hein, de la gare centrale d'agglomération. On pense en vous lisant à une liaison directe Arcachon-Libourne sans transfert de...
Ce sera sans doute la plus efficace, celle-ci.
Oui, parce que compte tenu du
Langon-Saint-Marien, il n'y aura pas grand monde pour le faire tous les
jours. Voilà, hein, l'idée, c'est de ne pas changer, de ne pas avoir de correspondance à Bordeaux. Mais voilà. On passe quand même par la gare Saint-Jean. Hein, voilà. Vous dites que ces lignes diamétralisées, donc ça veut dire en fait qu'on va d'un point du cercle à un autre point, hein. Il faut d'abord, ajoutez-vous, que le nouveau service offert soit fiable et ponctuel, hors aléa social. Bon, Gilles Savary, vous aviez plutôt une image d'homme de gauche. Ça veut dire que là, vous êtes carrément sur la limitation du droit syndical, par exemple.
C'est qu'on soit de droite ou de gauche, un train en retard vous emprisonne la vie. Hein. Ça fait pas de quartier. Il choisit pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut que le train fonctionne aujourd'hui, il faut qu'il soit désirable. Il faut qu'il soit désirable.
C'est carrément un tramway de mes désirs, mais
il faut qu'il soit plus désirable que la voiture. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Punir la voiture en est une. Dieu sait si on est avancé dans ce registre. Hein, elle se punit elle-même d'ailleurs. Elle coûte cher et elle produit des bouchons. Mais il faut que le service à côté soit impeccable. Or, moi, je le dis ici aujourd'hui, derrière la brillante vitrine du TGV, les services ferroviaires français sont en train de plonger dans tous les classements européens. Voilà. En train de plonger, en termes de fiabilité, en termes d'usage de la voie, en termes de trains exploités par kilomètre, en termes de nombre de voyageurs par kilomètre, et donc en termes d'âge du réseau. C'est François Hollande qui a décidé de l'inflexion politique après le le drame de Brétigny-sur-Orge, consistant à dire on va régénérer le réseau. On a fait semblant et affecté de découvrir qu'on avait un réseau extrêmement
délabré.
On a ralenti immédiatement 4000 km de ligne pour assurer la sécurité. Et Hollande a dit bon, on va augmenter les budgets et on va se consacrer à la régénération. On avait 33 ans de moyenne d'âge. Aujourd'hui, ça date de 2016, cette inflexion. 6 ans après, on est encore à 29 ans et demi de moyenne d'âge sur le réseau historique. Ça veut dire que ce réseau est dangereux. Alors, la SNCF fait tout pour qu'on puisse l'opérer. Ça veut dire qu'on baisse en fiabilité. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, on perd de la fiabilité, on perd de la ponctualité, parce qu'il y a des incidents. Et surtout, bon, on perd de la vitesse. Bon, ça, c'est pas forcément très grave. D'où la priorité, me semble-t-il, aujourd'hui, de régénérer ce réseau, parce que c'est celui qui irrigue toutes les métropoles. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui, effectivement, d'accélérer le projet des RER métropolitains. C'est tout récent. Bordeaux, d'ailleurs, n'est pas en retard, hein, que ce soit la région ou la métropole. C'est la ville la plus avancée avec Strasbourg, qui l'a inauguré au mois de décembre dernier. C'est très important. Mais il y a aussi comment ne pas, être choqué et compréhensif quand l'entreprise Legrand de Limoges explique qu'elle va sortir de Limoges parce qu'il n'y a pas de transport décent pour la relier à la capitale et au reste du pays.
La plus rapide de France à l'époque du Capitole.
On est en train de sacrifier l'ensemble du massif central et du centre
de la ligne Polt,
la France pour développer des TGV à 34 millions d'euros le kilomètre. Ils seront déficitaires et qui seront extrêmement coûteux en permanence parce que le TGV, il est coûteux en investissement, et il est coûteux, énormément coûteux, en fonctionnement, parce qu'évidemment, ces petites lignes, enfin ces lignes TGV, ce sont des objets de très haute technologie, il faut éviter les intrusions, il y a des tas de capteurs, ça use les caténaires, il y a pas mal d'accidents, vous avez remarqué, quand il fait chaud, quand il fait froid. Bref, ça ne veut pas dire que le TGV est un mauvais train, mais ça veut dire aujourd'hui que les priorités doivent être ailleurs. En tout cas, pour moi, ça veut dire que rien ne justifie que nous soyons les premiers dans l'histoire du TGV, à payer un impôt pour le développer. Les premiers. Il y a eu 3 générations de TGV. La première génération, c'est l'État qui payait. La seconde génération, on a fait payer les collectivités locales par une subvention. Et maintenant, on les embringue dans des sociétés de financement. Dans des sociétés de financement où elles vont se refinancer sur le marché financier et rembourser avec un impôt que les maires d'Aquitaine viennent tout juste de découvrir. Et qui va croître et embellir. Je vous promets que l'impôt, dans 10-15 ans, ça va être quelque chose.
Mais Gilles Savary, dans le livre, à plusieurs reprises, hein, vous envoyez un peu du bois à votre, collègue, ami, si ce n'est pas presque votre frère de lait à la mamelle du président Madrel, il paie à ses cendres, Alain Rousset, qui, en tant que président du conseil régional d'abord d'Aquitaine et de Nouvelle-Aquitaine depuis 2015, est sans doute le principal avocat du projet, ce qu'on appelle GPSO, un grand projet sud-ouest, c'est-à-dire le fameux Y entre Bordeaux, Toulouse et Bordeaux-Dax, et qui dit, mais si on construit cette ligne nouvelle, LGV, ça va libérer le réseau traditionnel et ça va pouvoir permettre de faire circuler des trains. Vous dites, on ne pourra pas faire les deux, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron, je crois, dans son discours de Rennes, et repris Jean Castex. Vous dites, il n'y aura pas les deux.
Je dis qu'il n'y aura pas les deux rapidement. Et je dis qu'il faut rapidement trouver des solutions périphériques. Et que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est d'irriguer les territoires ruraux et périphériques par des trains fiables et qui ne sont pas forcément des trains qui roulent à 340 à l'heure. Et j'observe que l'on a décidé de mettre l'essentiel des moyens que l'on va lever. Alors on me dit, mais non, mais ce n'est pas des moyens budgétaires, d'accord, mais ces moyens-là, on aurait pu les mettre dans la périphérie où il y a urgence. Il y a urgence sociale en particulier et urgence climatique. S'il y a urgence sociale et climatique, il faut qu'il y ait priorité absolue de politique publique. Je ne crois pas avoir cité Alain Rousset, parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un livre qui tourne autour de Bordeaux, de la problématique bordelaise. Mais c'est vrai que...
Quand on lit entre les lignes...
Moi, personnellement... Oui, mais ce n'est pas une affaire personnelle. Moi, personnellement, j'ai soutenu le TGV...
Tour Bordeaux,
dans lequel, d'ailleurs, sur lequel j'ai eu, et je le confesse, quelques illusions. Parce que l'État avait largement trompé les...
Vous dites même à un moment, j'y ai perdu mes dernières naïvetés en matière de confiance, en matière de
l'État. L'État a été ponctionné, toutes les collectivités locales, et n'a jamais assuré les dessertes auxquelles il s'était engagé. Jamais. Voilà.
Mmh. Mais sauf, pardon, je vous interromps, mais Carole Delga, à la suite de Martin Malvy pour l'Occitanie, et d'autres peuvent dire, mais nous, c'est encore pire. Nous, on a payé pour le tronçon Tours-Bordeaux en pensant que ça allait être l'acquisition sine qua non pour faire du Bordeaux-Toulouse. Et maintenant,
Jean Petot, j'allais vous le dire, c'est pour ça que j'allais, j'allais vous dire que ça vise pas à la Rousset, c'est que je pense que les élus se sont fait ficeler à l'époque, à l'époque de Tours-Bordeaux, parce qu'effectivement, on a demandé aux Toulousains de payer, aux Agenais de payer, aux collectivités des Landes de payer. Emmanuel y a refusé, lui.
Oui, c'est vrai.
En tant que président du conseil départemental des Landes. Mais on a quand même fait payer Dax, Mont-de-Marsan, en leur disant, ça vous rapproche de Paris. Vous voyez, c'est toujours. Ça ne sert pas à Paris, les TGV, paraît-il. Mais enfin, ça va à Paris, quand même. Voilà. Donc, je dis, il était très difficile pour des gens comme Rousset et Delga de renoncer à la prolongation. Moi, ce que je pense, quand même, c'est que, personnellement, je n'aurais jamais accepté d'adhérer à une société de projet, société financière, qui met en place une fiscalité locale, et société financière qui va prendre date dans ce bouquin, hein, qui va de plus en plus déverser les financements sur les collectivités locales. On va avoir, avec ce TGV, s'il se fait, je pense qu'il y a de bonnes raisons qu'il se fasse maintenant, puisque les choses ont été accélérées, des dépassements de travaux considérables, on les fera payer aux collectivités locales. Et je vous le dis, comme il sera très déficitaire, on verra ça dans 10-15 ans, on leur fera même payer la maintenance de la ligne. Ça veut dire que les collectivités locales sont en train de se ficeler de façon définitive.
Vous parlez d'un nouveau hold-up.
Définitif pour des TGV, qui sont un objet national, qui devrait être payé par l'impôt national, ou je ne sais quel montage financier national, parce que nous avons trop de besoins à honorer au plan local. Voilà. Et le même montage pour, par exemple, les RER métropolitains, pour des lignes qui sont des lignes de desserte des territoires ruraux ou périurbains, me choquerait pas. Il me choque pour le TGV. C'est le montage financier qui me choque le plus.
Quand on zoome, si je puis dire, ou quand on resserre la focale sur l'urbain et le périurbain, en particulier l'urbain des grandes métropoles, si je vous ai bien lu, page 164, vous expliquez que le parti pris qui a consisté à confier aux régions, ça c'est la loi NOTRe de François Hollande de 2015, le parti pris qui a consisté à confier aux régions tous les transports publics locaux, par-dessus ou plus exactement en remplacement des communautés de communes, est un choix politique. Et vous dites que il n'est pas le plus approprié pour régler le problème de la cohérence et de la continuité territoriale entre transport public urbain et transport périurbain voisin dans les zones fortement métropolisées. Vous dites que le modèle francilien de ce grand syndicat intercommunal en fait, d'Île-de-France pour justement le réseau RER francilien est bien plus pertinent. Expliquez-nous ça.
Ce que je pense, si vous voulez, c'est que s'il y a quelque chose qui se tricote au plan local finement, c'est bien les transports publics.
D'accord.
C'est les transports publics. Vous savez, changer de 50 mètres une halte de bus ou des choses comme ça, ça prend souvent des...
Y compris pour le passage scolaire, on a bien vu le passage du département en région.
Bien sûr. Et il faut, si possible, articuler avec les autres modes de transport. Aujourd'hui, ça devient très compliqué parce que c'est intermodalité. Il faut qu'on ne mette pas très loin les parkings à vélo. Il faut que les voitures et le rail et les bus soient en interface. Donc, pour moi, c'est un objet radicalement local, radicalement décentralisé. Et d'ailleurs, c'est probablement le premier objet intercommunal décentralisé. Le premier. Dès la fin du 19e, les communes se mettaient ensemble parce que transporter des gens ou des marchandises, c'est s'affranchir des limites communales. Donc, c'est un objet qui est intrinsèquement lié à l'intercommunalité. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que, par exemple, si je prends le territoire métropolisé de la Gironde et de Bordeaux, c'est très vrai à Toulouse, c'est l'impact de la métropole, il est 100 km autour de la métropole. Les prix de la métropole impactent l'ensemble de la distribution.
Vous dites même qu'il y a une différence entre la métropole institutionnalisée et la métropole géographique.
Oui, la métropole géographique, c'est celle...
275 communes.
C'est celle qui déborde, c'est celle que l'INSEE...
Elle appelle l'aire urbaine.
Aire d'attraction urbaine, aujourd'hui, ça s'appelle les aires d'attraction urbaine, c'est mesuré. L'INSEE dit, voilà, quelle est l'influence de la métropole sur le territoire, en termes d'activité, en termes d'emploi et en termes de population. À Bordeaux, ça doit être autour de... L'INSEE doit intégrer 247 ou 248 communes, alors que la métropole institutionnelle, c'est-à-dire la métropole politique, ne compte que 28 communes. Donc elle ne gère pas l'ensemble du territoire qu'elle induit, si je puis dire. Alors, on va vous dire à l'extérieur, oui, mais tantôt il y a la région, parce que la communauté de communes n'a pas pris la compétence. Tantôt, il y a la communauté de communes.
Je dis même que les régions ont plutôt fait en sorte de dissuader un certain nombre de communautés
chez nous, la région a voulu décentraliser. C'est un autre dissensus que j'avais avec Alain Rousset, mais c'est pas politique. Je ne comprends pas qu'on va y prétendre gérer les transports locaux les plus fins, d'ailleurs locaux. Hein, c'est pas les chemins de fer là, c'est les petits bus du coin et compagnie de la Bidassoa au nord de Poitiers, tout ça de Bordeaux. Je pense que c'est alors évidemment, on va mettre des comités Théodule partout, on va créer une administration monstrueuse parce que. Les régions ne savent pas vraiment faire des transports urbains. Les régions, ce qu'elles savent faire, c'est négocier avec la SNCF et avec les territoires, mais elles ne savent pas faire des transports urbains. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que je plaide en réalité, je plaide pour l'extension et la prise en charge des pays ruraux périphériques aux agglomérations. C'est parce que les agglomérations sont équipées. Elles sont équipées, elles ont des services qui, depuis maintenant de nombreuses années, savent gérer, tricoter des réseaux complexes, interreliés, maillés, multimodaux. Elles savent le faire, pas la région. Voilà. Donc on ne va pas réinventer un service à la région, recréer une dépense publique pour recréer un autre service, alors qu'il existe dans les métropoles. Deuxièmement, les métropoles, elles captent la richesse. Et elles captent en particulier un impôt qui est sur la base, sur la masse salariale de toutes les entreprises de plus de 10 salariés, qui s'appelle le versement mobilité pour développer les transports. Aujourd'hui, comme l'ensemble des entreprises, la plupart sont concentrées dans la métropole, c'est la métropole qui a cet impôt. Si elle récupère son arrière-pays, on aura une péréquation fiscale. Et donc, je pense que la logique des choses, dimension intrinsèquement locale des transports, et intrinsèquement locale et territoriale, le fait que les métropoles sont très équipées en services techniques, en ingénierie, qui dispensent les territoires ruraux d'aller se payer des ingénieurs, ou la région de recréer le même service alors qu'il existe. Voilà. Le fait que la métropole puisse péréquer ses ressources fiscales liées aux entreprises, et notamment la fiscalité transport, me paraît d'évidence aujourd'hui plaider pour que ce soit les métropoles qui se chargent de l'arrière-pays, sauf pour le train, qui est un mode lourd d'aménagement du territoire, et peut-être même certains réseaux routiers qui devraient être pilotés par les régions. Trois strates, ce qui est national à l'État, ce qui est structurant à l'échelle régionale. Chez nous, c'est presque aussi grand que l'Autriche. À l'échelle régionale, c'est-à-dire les vraies questions bordelaises, les vraies questions régionales, c'est comment je fais en sorte que Limoges soit bien câblé avec Angoulême, soit bien câblé avec Bordeaux, que Bordeaux soit bien câblé avec Poitiers, avec Mont-de-Marsan, avec le Pays Basque. C'est ça les questions régionales. Voilà. Donc ça, c'est la région. Et puis pour ce qui est des transports locaux, eh bien c'est le plus possible une interface entre le monde urbain et le monde rural.
C'est ce que vous appelez d'une formule qui est très significative ou signifiante, métropoliser la gouvernance des transports périurbains.
Métropoliser la gouvernance des transports périurbains, c'est ça. C'est faire en sorte d'avoir un outil, en général c'est un syndicat mixte, dans lequel urbains et ruraux délibèrent ensemble sur le développement de leur mobilité à partir des moyens et de l'expérience très éprouvée des métropoles.
Alors vous expliquez, c'est tout à fait un passage très très pédagogique, page 188 et la suite, l'exemple lyonnais du Citral, du syndicat des transports lyonnais. C'est un modèle qui vous semble pertinent?
Pour tous les spécialistes, c'est le meilleur réseau de très loin, c'est le plus fréquenté.
Il n'y a pas, j'allais dire, une prégnance de l'organisation de ce territoire qui crée un microcosme, j'allais dire, favorable. Le Grand Lyon, c'est quand même, cartographiquement parlant, c'est pas tout à fait la même situation que la métropole bordelaise.
Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, à Lyon, ils ont accepté de prendre en charge le territoire périphérique.
D'accord.
Ils le prennent en charge, alors sur toutes les dimensions, urbanisme et autres.
Et j'ai cru comprendre.
Et sur le Citral, on va même dans les départements voisins.
J'ai cru comprendre que l'élection de Monsieur Doucet à la présidence, à la mairie de Lyon, a créé quelques difficultés relationnelles sur ce modèle qui avait été concocté par Michel Mercier et Gérard Collomb antérieurement, le fameux modèle lyonnais de 2015. Il semblerait qu'en fonction des acteurs politiques, les choses soient moins idylliques que ce qu'on peut penser.
En tout cas, en ce qui concerne, oui, Lyon est un petit sujet. En réalité, c'est la métropole qui pilote le Citral, Lyon. Et là, ça marche très très bien. Je peux vous dire que c'est le réseau le plus divers, parce que les réseaux locaux sont des réseaux foncièrement multimodaux. Il faut maintenant faire de la place pour les piétons, pour les vélos assistance électrique, qui sont un nouvel objet extrêmement prometteur. Il faut de l'intermodalité, il faut embarquer les vélos dans les transports collectifs. Bref, il y a toute une révolution. On aura des applications pour pouvoir faire son propre plan de transport. Donc, le Citral est de ce point de vue-là un modèle, mais il n'est pas le seul. Les métropoles ont refusé de s'agrandir avec la loi NOTRe.
Elles ont aussi refusé parce qu'il y avait des communes dans la périphérie qui n'en voulaient pas. Hein.
Je le dis ici.
Oui, c'est vrai.
Ce qu'on appelle...
Les EPCI de défense.
Les EPCI défensifs. Mmh. Les ruraux ont dit, entre nous, les départements ont dit, bah, pour me faire élire, il faut que je garde des ruraux, donc on va faire une grosse campagne contre la ville. Voilà. Et donc, à chacun... Et la métropole disait, bon, on est un nombre réduit de maires, on ne va pas ouvrir à toutes les périphéries. Bah, ce modèle, aujourd'hui, à mon avis, est totalement obsolète. Mmh. Et c'est une des raisons du blocage et de ce qui se passe au niveau territorial, c'est-à-dire cette espèce de sélection sociale qui devient de plus en plus intenable pour la République, ce que j'appelle le séparatisme.
Vous parlez même, vous dites, la République a un devoir moral, page 180.
Bien sûr.
Vous voyez cette expression-là, de combler cette fracture.
Voilà, c'est ce que j'appelle le séparatisme. Donc, il est temps, au moins sur les mobilités, que les compétences soient métropolisées. Voilà, c'est-à-dire qu'elles prennent en charge l'arrière-pays. Et je suggère, ce qui est extrêmement violent, évidemment, que ce soit la loi qui en décide, si les élus locaux sont contre. Les élus n'ont jamais été très emballés pour la coopération intercommunale, historiquement. La communauté urbaine de Bordeaux a été créée en 1966.
Autoritairement par l'État. Ça fait
la loi. Par la loi.
Créé par l'État.
Par la loi, voilà. Donc, je veux dire, si aujourd'hui, on considère que les problèmes périphériques sont urgents et absolument décisifs au plan climatique, mais aussi au plan social, bah, il faut en passer par la loi.
Si vous croyez que la légitimité politique étatique, quel que soit d'ailleurs celui qui est au sommet de l'État, permet aujourd'hui de
refaire... Écoutez, moi, j'ai délibéré dans la loi NOTRe.
De 66.
J'ai délibéré dans la loi NOTRe pour la création de trois métropoles. Mmh. Une métropole de Paris, une métropole de Marseille et une métropole lyonnaise.
Mais alors,
c'est la loi qui l'a fait.
Oui, c'est vrai, sauf que, par exemple, Marseille, on peut dire que la nécessité a presque fait loi, compte tenu de ce que c'était devenu.
Ah bah oui, oui.
Là, il n'y avait pas d'autre solution.
Il y avait des élus locaux.
C'était la cessation de
paiement. Il y avait des élus locaux, ils n'étaient pas très favorables. Hein, mais...
Oui, non, mais là, d'une certaine façon, quand le nœud autour de la corde, ou du coup, se resserre, vous n'avez pas d'autre choix.
Alors, Jean Petaut, il y a peut-être ce qui est la marche classique de l'intercommunalité, peut-être en passer, si on n'en passe pas par la loi, au moins par des incitations.
Oui.
C'est-à-dire d'expliquer que, bon, voilà... une aide publique particulière pour les transports sera donnée, ou une fiscalité supplémentaire sera donnée pour les transports si les métropoles élargissent leurs compétences transport. Moi, personnellement, je parle de la loi. En tous les cas, je pense qu'il doit y avoir des incitations extrêmement fortes. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que la loi de Hollande, dite NOTRe, qui a voulu regrouper les structures intercommunales, est un échec dans les grandes villes. Mmh. Bordeaux n'a pas bougé. Je ne sors pas de mon périphérique, la métropole. On récupère Martignas, une commune. On était 27 en 1966, on est 28 depuis. Bon, c'est ridicule par rapport au développement. Mais par contre, les villes moyennes, elles, ont énormément grandi. Et donc, dans les villes moyennes, on va avoir un très beau laboratoire d'agglomérations qui prennent en charge leur arrière-pays. C'est le cas au Havre, 95 communes. C'est le cas.
C'est le cas pour le Pays Basque. Hein.
C'est le cas à Reims. C'est le cas pour le Pays Basque, où là, on a des réseaux qui se développent en urbain rural. Ça ne vient pas d'ailleurs, hein, ce n'est pas une idée tonitruante que j'ai là. Donc, les urbains et les ruraux tricotent ensemble leur mode de transport.
Alors, on va terminer par... d'abord, je recommande le chapitre 7, où vous avez un certain nombre de préconisations, mais on ne va pas les donner, comme ça les lecteurs auront qu'à se plonger dans le livre pour comprendre un petit peu ce que vous proposez. Vous évoquez... l'évolution des villes, à travers en particulier l'exemple bordelais, quand on sait que vous avez été, et pas muet, un des responsables de l'opposition à Alain Juppé entre 1995...
Oui, vous l'avez oublié tout à l'heure pour le dire, parce
mais
j'ai aussi cette expérience d'élu urbain.
Exactement. Donc, en tous les cas, on n'a pas oublié ce que ça a évoqué, ou ce que ça vous a valu comme échange avec Alain Juppé en tant que maire. Ça, c'est 1995-2004. Mais vous dites, vous rendez hommage à Alain Juppé en disant il a considérablement transformer hein, la ville hein, avec ce choix, non pas effectivement du métro, on l'a dit au début.
Alain Juppé et Alain Rousset, je dirais, un qui s'occupait d'économie, l'autre d'urbanisme.
Exactement, et ça a très bien fonctionné, d'où d'ailleurs peut-être ça a tellement bien fonctionné, le résultat, hein, qui n'était pas vraiment une surprise pour ceux qui connaissaient, des municipales de 2008, où là, à l'évidence, les électeurs bordelais se sont chargés de dire chacun chez soi, quoi, hein, dans le combat des deux Alains. Bon. Mais je retiens cette formule, les choix politiques de ces 20 dernières années sont surtout victimes de leur succès. Est-ce que ça plaide pas pour l'option qui semble être celle de l'équipe municipale en place à Bordeaux depuis 2020? Autrement dit, un arrêt du développement, un statu quo, voire une certaine forme de décroissance assumée.
Enfin, ce qui est absolument sûr, c'est que la ville va continuer à se fermer, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel en matière de transport urbain, c'est de remettre de l'ordre sur l'espace public. Parce que l'arrivée des vélos, l'arrivée des trottinettes, le développement de la marche ont même ralenti les tramways, par exemple, à Bordeaux. Hein. Donc, la question ne se pose plus tant de développer de nouveaux transports publics au centre-ville. C'est de mettre de l'ordre dans l'espace public. On va y rajouter probablement, et il y aura un grand consensus, de la végétalisation, parce qu'on a bien vu cet été, quand il a fait très chaud, que nos villes étaient trop minérales. Donc les villes vont se fermer de plus en plus, en tout cas ça c'est clair, et d'un autre côté, comme je n'imagine pas une seconde qu'on les interdise aux gens de la périphérie, il faut trouver une alternative. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qui est victime du succès, c'est que quand Juppé a décidé de fermer la ville de Bordeaux, les artères centrales, c'était très avant-gardiste quand même. Hein hein, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'autres collectivités qui a bouclé ce qui serait l'équivalent des Champs-Élysées et de la place de la Concorde à Paris. Du jour au lendemain, il n'y a plus de voitures. C'est ça qui s'est passé avec le cours de l'intendance, le cours du Chapeau Rouge et puis Péberlan. Donc ça a été extrêmement courageux. Je veux dire que ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, ça a créé les problèmes périphériques que l'on connaît. Donc je pense que ce n'est pas une raison pour figer la situation. Je pense qu'il faut s'occuper des périphériques.
Mais je me trompe, ce que vous semblez développer comme thèse, c'est que finalement, la nouvelle équipe municipale, enfin, parler des Verts, hein, des écolos, vous employez à leur égard d'expressions comme malthusien, darwinien, c'est pas simple hein, quand même, c'est pas tendre. Hein. Finalement, ils sont assez à l'aise dans ce schéma qui n'a pas été décidé par eux.
Je pense qu'ils sont en continuité.
Exactement.
Je pense, si vous voulez, que à Bordeaux, bon, je connais bien Pierre Urmic, j'ai beaucoup d'affection pour lui parce que on a commencé ensemble en 95.
Voilà, vous étiez sur des listes.
Oui, mais enfin, quand même, même conseil municipal, et je le reconnais. C'est quelqu'un de très particulier. Je reconnais une très grande capacité une très grande force de conviction. C'est-à-dire qu'il est mu par ses convictions, jamais par des calculs. Bon, alors je ne partage pas toutes ses convictions. Oui. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce que je déplore, si vous voulez, c'est que parfois dans ces villes centres, dans lesquelles on a mis en place les Verts pour être sûr de bien prolonger ce qui se faisait encore à Bordeaux. C'est-à-dire que c'est le degré supérieur. Ouais. Juppé a commencé à fermer la ville où c'était pas consensuel. Aujourd'hui, c'est tellement consensuel, il faut tellement accélérer qu'on met en place les Verts. Bon, dans les circonstances qu'on connaît, avec quand même un taux d'abstention, d'abstention considérable. Mmh. Mais oui, il y a une forme de continuité.
Vous parlez même d'un égoïsme urbain éclairé.
Voilà, même une demande d'accélération. Ouais. Et ce que je condamne, c'est pas que la ville devienne plus agréable et plus attractive. Je pense que c'est inéluctable. Je dis dans mon bouquin, attention, c'est inéluctable. Les villes vont se fermer et ça sera consensuel. Droite-gauche, même si c'est les Verts qui sont à la manœuvre. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, qu'ils considèrent que ce qui se passe en périphérie, c'est Darwin. C'est la sélection naturelle. Que le pauvre reste pauvre, que celui qui ne peut pas accéder au CHU n'accède pas au CHU, que celui qui ne peut pas accéder au Grand Théâtre n'accède pas au Grand Théâtre. Voilà, c'est l'égoïsme urbain, si vous voulez, qui me gêne. Alors, le sociologue Jean Viard a fait la même constatation, avec sans doute beaucoup plus de science que moi, et il dit, oui, il y a quand même un conflit, c'est la question des gilets jaunes, entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Et la meilleure façon de le régler, ça serait de faire voter les usagers de la ville et pas simplement les résidents. Bon. Je ne pense pas qu'on ne trouvera pas un tel mode de scrutin, mais vous voulez dire, en gros, il y a des gens qui, tous les matins, viennent balayer la ville, ils habitent à l'extérieur. Il y en a d'autres qui viennent travailler à l'hôpital, ils habitent à l'extérieur. Ils seraient fondés à voter. Et c'est parce qu'ils ne votent pas qu'on ne règle pas leurs problèmes périphériques. Alors, effectivement, on n'a pas trouvé le mode de gouvernance aujourd'hui, sauf dans les structures intercommunales qui prennent en charge la périphérie.
Alors, vous évoquez, on a terminé sur cette référence, hein, page 283, vous reprenez l'expression chère à JFK, celle de nouvelles frontières, hein, qui s'appliquait, on l'oublie souvent, à deux notions. Hein, c'était à la fois la conquête spatiale, hein, un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, mais c'était aussi la lutte contre la ségrégation
bien
raciale.
Sûr, bien
c'était
sûr
aussi à la nouvelle frontière. Et vous dites, vous qualifiez de nécessaire cette nouvelle frontière, entre guillemets, je vous cite, grande politique publique indispensable de mobilité à l'intention des populations périurbaines et périphériques de notre pays, de nouvelles frontières, donc, qui est la réponse à la tentation séparatiste. Vous pensez que une nouvelle gouvernance peut porter cette nouvelle frontière?
Oui, je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir une nouvelle gouvernance par l'entrée territoriale, pas par l'entrée institutionnelle.
D'accord.
On va pas désigner. Je veux dire, en tirant au sort, que c'est la région, l'État, l'Europe ou le département qui vont gérer les problèmes locaux. Non, les problèmes locaux, ils se gèrent localement. Voilà. Donc, c'est une entrée territoriale. Et cette entrée territoriale, avec toute l'ingénierie et l'expérience qu'ont les métropoles pour gérer leur arrière-pays. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'en appelle, d'une part, à ce que... Enfin, c'est les deux conclusions. À ce que l'on donne une compétence élargie aux métropoles et qu'on fasse en sorte, par un biais législatif ou par des incitations très fortes, qu'elles prennent en charge l'arrière-pays en matière de transports locaux, et routes comprises, hein, et d'autre part, qu'il y ait une loi de décentralisation ferroviaire, de façon à ce que l'État arrête de déverser l'ensemble de la charge ferroviaire sur les collectivités locales. Ce qui est mis là n'est pas mis dans les transports publics locaux. Je voudrais dire quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, que tout ceci ne se fera pas sans la route.
Oui, voilà. Hein, c'est...
Et tout ceci ne sera pas sans la route.
Tout un chapitre sur la question, par exemple, des autoroutes, qui est absolument passionnant, hein, qu'il faut lire, parce qu'on comprend qu'il n'y a pas de solution simple, hein, sur ce dossier.
D'abord, parce qu'on a un réseau routier remarquable. Deuxièmement, parce que, comme on n'a pas de gestion routière, les gens prennent des trajets malins dans les embouteillages, et ça percute des centres-villes de petits villages, en faisant courir des risques à des gens paisibles qui ont des enfants qui traversent pour aller à l'école, des petits villages qui sont pas faits pour être percutés à l'heure de pointe par des circulations permanentes.
Ça, voilà. C'est les effets de l'application Waze.
Et plus Waze. Mm-hmm. Donc on a de l'ordre à mettre dans le réseau routier, et puis il y aura toujours des véhicules individuels. Il faut arrêter aujourd'hui dans cette espèce de stigmatisation anti-voiture. Ils seront d'ailleurs décarbonés, ça c'est une certitude. On y arrivera technologiquement, ça ira assez vite. Donc il faut faire la place aux véhicules individuels, sans doute optimiser notre réseau routier périphérique et puis donner un nouvel usage à la route. Vous savez qu'à Madrid, on transporte 800 000 personnes par jour de la périphérie de Madrid à Madrid par des cars à haut niveau de service. Le car aujourd'hui est une solution qui peut être beaucoup plus rapide que le RER métropolitain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le RER métropolitain, mais à Bordeaux, on vous dit, écoutez, le RER métropolitain, tout compris, ça vous fera en gros 1 milliard quand vous aurez fait tous les rabattements, les aménagements urbains, ça fera 1 milliard. Et ça fera 20 000 personnes de plus par jour. C'est-à-dire qu'on sera...
À quelle échéance ?
2030.
D'accord.
On sera à 38 000 usagers par jour. C'est ça, aujourd'hui, l'objectif. 38 000 usagers par jour. C'est-à-dire 38 000 voyages par jour sur le RER métropolitain, 1 milliard après avoir dépensé 1 milliard. Je ne dis pas qu'il est inutile. Alors qu'on aura 600 000 voyage par jour dans la Gironde en 2030. C'est vous dire qu'on ne réglera pas tout par le rail.
Donc, un ouvrage passionnant. Ça se lit, non pas comme un roman, mais ça se lit très facilement. C'est pourtant précis et documenté. C'est documenté comme un rapport de la Cour des comptes, mais c'est beaucoup moins embêtant à lire. Merci, Gilles Savary.
Merci, Jean Poteau.
Pour La ville inaccessible, et c'est sur une fabrique des gilets jaunes au bord de l'eau. Merci, Gilles Savary.
Merci.